Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Certains l'aiment blanche, d'autres bariolée. Et vous, quelle couverture vous donne envie d'acheter un livre ou au contraire vous rebute? Quelle couverture vous donne envie d'exposer vos lectures au milieu de votre salon ou de les cacher au fond d'une armoire? Entre gage de sérieux et appel du pied, une couverture a le paradoxe des apparences, trompeuse et révélatrice à la fois. Mais de quoi? D'un texte, d'un éditeur ou du lecteur qu'on aimerait être?
T'as vu? Yeah. Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
2147.
Un amour, Buzzati. Un autre. Vite, 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 vite.
3427.
Impression d'Afrique, Roussel. Continue, continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
Bonjour Clément Saint-Bert.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste du design graphique. Vous enseignez à la Haute École d'Art et de Design de Genève et vous êtes l'autrice de ce livre, Les couvertures de livres, une histoire graphique parue aux éditions Imprimerie Nationale. C'est un très beau livre. Comment vous avez réussi à choisir votre couverture de livre justement?
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la graphiste qui a réalisé le livre. Et c'est une très belle idée qu'elle a eue parce que donc c'est une couverture qui se présente en deux parties. Il y a une jaquette qui est légèrement translucide en papier calque sur laquelle sont imprimées une partie des lettres qui composent le titre et le reste des lettres est inscrit donc sur la première de couverture du livre physique qui est jaune. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer que la couverture jaune a eu beaucoup de succès dans l'histoire du livre.
C'est vrai que c'est une couleur qu'on retrouve dans beaucoup de collections en tout cas et de maisons d'édition en tout cas en France. Est-ce qu'on peut dire, Clément Saint-Bert, c'est un peu une question bête, mais qu'une couverture de livre, eh bien, ça ne se réduit pas justement à ce rectangle que vous avez décrit pour commencer, mais qui ne se réduit pas à ça, la couverture.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que souvent, aujourd'hui, on choisit parfois les livres sur des plateformes de vente en ligne. Ce qu'on voit quand on voit une couverture, c'est une petite vignette rectangulaire. Et en fait, une couverture, c'est évidemment plus que ça. Ce sont parfois des rabats. Il y a des collections dans lesquelles les couvertures sont dotées de rabats. C'est parfois une jaquette. Alors, c'est pas très courant en France, mais dans les éditions...
Vous en avez une, en tout
oui,
cas.
Oui, voilà. Dans les éditions anglophones, c'est fréquent que le livre soit un livre rigide avec une jaquette souple qu'on peut enlever ou conserver. Il y a des livres qui ont des quatrièmes de couverture très intéressantes, parfois plus que ce que la première a raconté. Et puis, il y a une partie qu'on néglige souvent quand on pense à la couverture, c'est le dos du livre, qui est donc cette mince bande de papier qui relie la première et la quatrième de couverture, qui est un espace qui est très difficile en fait à concevoir pour un graphiste et c'est en fait ce qui reste finalement le plus visible d'une couverture quand le livre est conservé.
Bah, c'est d'ailleurs ce qu'on entend dans l'extrait de ce film Préparez vos mouchoirs, c'est un film de Bertrand Blier, on y entend donc Raoul qui demande le personnage voilà, à son ami de donner des numéros en fait de livres et il en ressort les titres, donc c'est vraiment le dos. C'est souvent ce qu'on appelle la tranche, à tort. Le dos, c'est là où est inscrit le nom de l'auteur, le titre et la maison d'édition, et donc peut-être aussi le numéro de série, j'imagine.
Oui, c'est ça. En fait, c'est historiquement la partie du livre qui était la plus ornée, si on pense à la reliure, donc qui est l'ancêtre de la couverture qu'on utilise aujourd'hui pour relier la plupart des livres. La reliure, quand elle apparaît sous la forme de la reliure de cuir, c'est la partie, le dos, qu'on va le plus travailler. Les relieurs portent un soin vraiment extrême. C'est là qu'on met le plus de dorure, généralement, parce que c'est la partie qui va être visible et ça sortir après à l'intérieur du propriétaire du livre. Donc c'est une partie importante.
Alors que pourtant, quand on est en librairie, on ne regarde jamais en fait le dos. On va regarder ce qu'on appelle la couverture, on va regarder la quatrième de couverture pour se donner vaguement une idée quand même du contenu. Mais sinon, voilà, ce dos-là ne nous intéresse pas du tout.
Non, c'est vrai, le dos, on le découvre souvent quand on range le livre dans sa bibliothèque, avec parfois la petite contrariété de voir que la charte graphique d'une collection a pu changer, que les noms d'auteurs ne sont plus inscrits dans le même caractère ou dans la même couleur. Je sais pas, c'est Folio a rénové sa charte graphique dans les années 2000 pour mettre le nom de l'auteur en couleur alors qu'il était en noir auparavant. Et ça crée, quand on range ses livres, tous ces folios en même temps, si vous classez vos, comme c'est mon cas, vos livres par collection, on est un peu voilà, chiffonné parce qu'il y a une sorte
de... Il y a une forme de c'est dysfonctionnel, quoi, ça marche
voilà,
plus.
Voilà, c'est ça, l'harmonie est un petit peu rompue quand les dos ne sont pas exactement les mêmes. Mais dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est vraiment toute la collection du livre de poche. Ils ont sur leur dos, les livres de poche, un petit cartouche au bord arrondi, rectangulaire, allongé avec des bords arrondis. Et c'est vrai que la scène est spectaculaire parce qu'on a vraiment l'impression que ce personnage habite dans une librairie où tous les livres de poche auraient été réunis sur les rayonnages.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la couverture qui semble être un sujet un petit peu mineur au vu de ce qu'on peut dire sur le livre. Quand on parle de livre, Clémence Imbert, on a plus envie de parler de l'auteur, du contenu, peut-être de l'histoire de la maison d'édition et encore. Alors pourquoi en fait la couverture, voilà, ça vous a intéressé?
Ouais. Alors moi j'ai approché cet aspect du livre avec l'intérêt qui est le mien pour ce qu'on appelle le graphisme, le design graphique. Donc c'est tout ce travail de mise en forme du texte et de l'image qui s'exerce sur la couverture de livre, mais qui s'exerce aussi beaucoup dans la publicité, dans la presse, dans l'édition de manière générale. Il y a ici un champ d'activité dans lequel travaille plein de personnes qui sont en fait pas très connues en France. Le design graphique en tant que profession puis en tant que domaine de création est peu connu du grand public, et ça me tenait vraiment à cœur de donner un petit peu plus de visibilité à ce métier qui a évolué, hein, qui tire un petit peu son origine de la pratique de la typographie. Un typographe, c'est quelqu'un qui dispose des lettres sur la page dans une imprimerie, et puis c'est un métier qui s'est peu à peu ouvert de plus en plus à l'image. Donc en intégrant l'illustration dessinée, l'illustration photographique, et puis en essayant de créer des associations de textes et d'images qui soient particulièrement frappantes. Donc c'est souvent le cas dans la publicité, mais c'est le cas sur les affiches, c'est le cas sur les couvertures de livres. Et c'était un très très bel espace d'observation de ce métier et de son évolution.
Alors vous avez commencé quand, comment en fait? Parce qu'en fait c'est un sujet qui est peu travaillé, même presque pas travaillé, donc sauf par vous, mais c'est aussi un sujet qui est souvent méprisé. Quelqu'un, j'imagine, qui dit qu'il n'achète un livre qu'en fonction de la couverture, on va se dire qu'il n'est pas très intéressé par le texte. Comment vous avez commencé?
Effectivement, en fait, j'étais très surprise de voir que cet aspect-là n'avait pas été exploré de manière globale et qu'en fait les informations que j'ai réunies, elles se trouvaient dans différents champs, effectivement, soit de l'histoire du livre, soit de l'histoire de l'illustration, soit de l'histoire du graphisme. Et il fallait donc tisser un petit peu la toile de toute cette histoire. Donc c'est sûr, oui, c'est un sujet qui a été peu exploré. Après, les Anglo-Saxons sont plus avancés que nous là-dessus parce qu'ils...
Mais parce que justement, ils sont pas méprisants. Effectivement.
Je pense qu'il y a, il y a peut-être moins de pudeur vis-à-vis du marketing du livre dans les pays anglo-saxons. Les couvertures sont volontiers plus voyantes, plus
bariolées. Bariolées. Ouais, c'est peut-être un petit peu méprisant.
Non, mais c'est vrai. Quand un lecteur francophone rentre dans une librairie en Angleterre, aux États-Unis, il a souvent l'impression que c'est très très saturé, quoi, que toutes les couvertures crient les mérites du livre qu'elles recouvrent, et que en fait, on n'est pas habitué à ça en France, où c'est plutôt la discrétion qui est de bon goût. Et les libraires aussi préfèrent souvent créer des étalages de livres qui mettent en avant des titres un peu discrets ou d'aspect un peu élégant, on va dire, moins que criard. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça. Après, dans les pays anglophones aussi, les médias grand public se font l'écho de certains phénomènes d'édition. Je pense récemment, il y a eu un livre de Harper Lee, un inédit d'Harper Lee qui a été édité. Le choix de la couverture par l'éditeur qui a fait la première édition de ce texte avait été vraiment scruté dans la presse généraliste. Les gens avaient des avis sur la couverture qui avait été choisie, qui était un peu une espèce de revisitation de la couverture de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est ce grand classique américain.
Ça veut dire que tous les débats, par exemple, dans les pays anglo-saxons autour des couvertures et qu'on n'a pas en France, ça porte sur quoi, en fait? Sur le fait que ce soit un objet esthétique, le fait que ça trahisse le texte, l'auteur, le fait que ce soit un objet bien pensé comme phénomène d'édition ou comme objet marketing?
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débats, en fait, en France autour de cette question-là. Moi, les personnes avec qui j'ai...
Mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais.
On en parle peu.
Enfin, ça fait pas de polémique.
On peut en parler entre amis, quand on est...
Ouais, en général, pour dire que c'est moche.
Voilà. Oui, c'est ça. En fait, souvent, c'est sous l'angle du, un peu des goûts et des couleurs, quoi. J'aime pas. Non, c'est les libraires qui m'ont le plus apporté en fait leur expérience là-dessus, parce que eux voient vraiment passer beaucoup de couvertures, et puis les ont une connaissance vraiment des modes aussi éditoriales sur l'échelle de quelques années. On voit certains phénomènes, je sais pas, dont on aura sans doute l'occasion développer
ensemble. On peut y aller maintenant, par exemple. Un phénomène nous en France, si on fait la comparaison avec les pays anglo-saxons, il y a plus de couvertures bariolées là-bas. Vous l'avez dit, il y a des débats, il y a des polémiques autour des couvertures, pas en France. En France, ce qu'on aime, c'est les couvertures beige, blanche, béjasse.
C'est un peu en train de changer, mais c'est vrai que pendant longtemps, le grand classique de littérature française et surtout le livre qui avait des chances de gagner un prix littéraire était un livre de Grasset ou de Gallimard. Voilà, effectivement, avec une couverture très fade, enfin d'allure fade. Mais en fait, si on regarde bien, il se passe plein de choses très intéressantes à la surface de ces livres-là qui ont des couvertures tout typo. Et c'est en train de changer parce qu'il y a... plein de petits éditeurs. Alors, petit, c'est pas du tout méprisant, mais c'est par l'échelle des maisons d'édition qui sont effectivement plus petites, qui sortent moins de titres par an, qui ont un catalogue plus restreint. Et ces petits éditeurs-là ont tout intérêt pour être remarqués des lecteurs et des libraires en premier lieu, puisque ce sont les libraires, encore une fois, qui vont mettre ou non en avant dans leur librairie les livres. Ces petits éditeurs, ils ont tout intérêt à soigner énormément la présentation de leurs livres et la fabrication. Donc, ça passe par des choix qui sont de plus en plus, anglo-saxon d'aspect. Donc ça peut être des couvertures qui vont afficher un titre calligraphié, donc c'est le titre et le nom de l'auteur seul, il n'y a pas d'illustration, mais les lettres peuvent être dessinées, peuvent être ornées, je sais pas, de feuilles, de fleurs, de fruits, ça. Voilà. Y en a d'autres qui vont choisir des papiers particuliers ou des effets d'impression en relief, un petit peu avec des effets de gaufrage ou de dorure, voilà. Et ça, on l'observe ces dernières années, donc il y a plus de variété en fait, et les bons livres sont plus forcément ceux qui se présentent sous une couverture béjasse.
Donc voilà. Donc les libraires, ça a été vraiment votre première source, Clément Saint-Bert?
Non, moi j'ai travaillé. C'est une étude historique, donc j'ai travaillé beaucoup sur des livres d'histoire de l'édition, sur des entretiens aussi. J'ai fait des entretiens avec des directeurs artistiques, avec des graphistes, avec des illustrateurs de ces métiers-là. Mais comme c'est une étude historique, oui, j'ai surtout passé du temps à documenter l'évolution de certaines maisons d'édition, leur histoire, à chercher des images, parce que finalement, c'est pas si facile de trouver des images de couverture.
Surtout de livres disparus, voilà. Ou très anciennes.
En fait, malheureusement, les bibliothèques, quand elles conservent un livre, elles sont souvent pour habitude de soit doter la couverture, de la remplacer par une couverture rigide.
Ah,
si
oui,
vous allez dans une bibliothèque pour que le livre vive plus longtemps, on va remplacer sa couverture, si c'est une couverture papier souple, par un cartonnage rigide. Et la couverture papier, dans le meilleur des cas, elle est conservée, mais souvent elle est ôtée ou découpée, puis mise à la fin du volume. Donc c'est pas dans les bibliothèques qu'on peut trouver des livres dans leur état original, même pour des livres du XXe siècle, souvent ils sont couverts, il y a des étiquettes, il y a des choses qui gênent en fait la visibilité de la couverture. Donc c'est beaucoup sur le marché du livre d'occasion que j'ai trouvé aussi de la matière pour faire cette histoire-là. Il y a énormément de gens qui vendent des livres en ligne, donc et là il y a parfois de très bonnes photos, il y a des librairies spécialisées dans le commerce du livre d'occasion, y compris sur le XXe siècle, qui est la période que j'ai couverte, où on a des livres qui sont photographiés sous toutes les coutures. On peut vraiment voir aussi le dos, la quatrième, dans leur état le plus proche possible de celui qui était de leur sur la mise, au moment de la mise sur le marché. Voilà. Mais oui, non, c'était pas une enquête évidente, et il faudrait évidemment la prolonger en allant davantage, je pense, voir les archives des éditeurs qui ont plein de secrets encore à livrer.
Et toute l'enquête que vous avez menée, Clément Saint-Bert, vous en êtes arrivé à quelle définition de la couverture? Parce que vous avez très bien décrit ce qu'était une couverture, qui ne se réduit pas à ce rectangle qu'on voit. Mais quelle définition vous donne, par exemple, des designers graphiques, des éditeurs, des libraires? Pour eux, c'est quoi une couverture, ou plutôt ça sert à quoi une couverture?
Oui, alors ça sert à deux choses. Ça sert à identifier le livre, mm-hmm. donc à fournir à sa surface des éléments d'indication sur le contenu. Et ça de manière très factuelle, mais effectivement le nom de l'auteur et le titre sont les choses les plus élémentaires qu'on attend sur une couverture. Et puis s'y ajoutent des choses qui ont plus valeur promotionnelle et qui vont être... Moi, je classerais presque dedans le logo de l'éditeur, parce que c'est déjà une espèce de marque, mm-hmm. de gage de qualité. Quand on est un éditeur prestigieux, on n'hésite pas à mettre son nom en valeur. Donc, des éléments de ce type-là, il y a des collections sur lesquelles figure le prix. C'est aussi un argument de vente, hein, notamment sur les collections populaires, quand le livre est à petit prix, les Penguins...
Oui, par exemple, 2 euros, on voit sur certaines collections,
voilà,
c'est mis en avant.
Tout à fait. Et puis la chose qui relève le plus de la dimension promotionnelle et qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'image. Et là, c'est l'objet de beaucoup, beaucoup de... Là, pour le coup, de discussions, de débats internes chez les éditeurs. Quelle image va-t-on mettre en couverture qui saura résumer le roman ou l'ouvrage de non-fiction, si c'en est un. Et là, sur cette dimension d'image, on peut vraiment réfléchir à ce que, même d'un point de vue sémiologique, ce que l'image produit avec le titre, comme association d'idées, comme précision ou ouverture sur les sens qui sont déjà portés par le titre seul. Et puis, après, quand on lit le livre, est-ce que l'image est bien choisie? Est-ce qu'elle donnait déjà des indices probants sur le
mais
contenu?
Mais que cherchent à faire les éditeurs? C'est vraiment à capter le regard, à faire une alliance entre le titre et l'image. Est-ce que c'est pour faire vendre plus? Est-ce que c'est pour faire découvrir? Paradoxalement, on a presque l'impression que ce qui va plus compter, c'est d'attirer le lecteur que de miser sur un nom ou sur un titre, en fait.
Oui,
c'est plus l'image. Enfin, c'est très paradoxal de parler d'un livre en disant qu'en fait, l'auteur est presque accessoire, à la fois dans le choix en fait, de l'image, mais presque aussi sur cette couverture.
Tout à fait. En fait, oui, le geste qui est recherché de la part du lecteur, c'est celui de prendre le livre quand il est sur une table de libraire et de le retourner pour voir la quatrième de couverture qui va compléter l'argumentaire de vente. Mais l'image, elle est là quand même pour susciter l'envie d'aller vers le livre. Donc, clairement, c'est ce que vous disiez, de vouloir accrocher le regard. Puis ensuite, il y a quand même une sorte d'éthique là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus mettre une image qui n'a rien à voir, qui soit extrêmement racoleuse. Il faut que ce soit fidèle au contenu pour que le lecteur soit le moins déçu possible.
Ça pourrait être une technique.
Ça a été une technique. Ça a été une technique dans les années 50 aux États-Unis. Les paperbacks, donc les livres de poche très très grand public, très populaires, étaient illustrés par des images qui n'avaient parfois rien à voir avec le texte qui était à l'intérieur, qui étaient des rééditions de grands classiques. Mais pour les vendre en kiosque, puisque c'était souvent des ventes, c'est pas vraiment de la librairie, c'était plutôt des drugstores, des supermarchés, des kiosques à journaux, c'était là qu'on trouvait des paperbacks, bah on mettait des images qui pouvaient attirer le chaland. Donc
vous pouvez en parler par exemple de prendre un exemple de couverture, évidemment.
Dans les couvertures qui sont vraiment complètement infidèle, on va dire, au sujet du livre. Il y en a une dans mon livre qui est celle de Au cœur des ténèbres de Conrad. Donc, c'est l'édition américaine en paperback. Donc, c'est intitulé Art of Darkness. Et on voit sur cette couverture donc une scène qui se déroule de nuit avec un personnage masculin au centre qui est éclairé, lui, dans la lumière, qui a le poing serré, qui est torse nu, dans un pantalon de toile beige. Il regarde hors champ, il a l'air un peu en colère et il est tenu par la main par une femme à la peau noire qui, elle, porte un pagne, des bijoux, qui porte des signes d'exotisme très visibles, qui a la poitrine totalement dénudée. Mmh. Ce qui était très étonnant pour l'époque quand même. Enfin, c'était des couvertures qui pouvaient créer scandale et du coup ne pas être montrées par les libraires ou être cachées dans les kiosques. Et sur cette couverture, il y a également une petite accroche qui est quasiment une accroche publicitaire qui promet au lecteur de la romance, de la terreur et des aventures exotiques, donc ça en anglais évidemment. Et quand on lit les textes qui sont là-dedans, il n'y a pas une seule scène. Si vous connaissez Au cœur des ténèbres, il n'y a pas une seule scène.
Avec une femme dénudée
de couleur où le héros entamerait une espèce de relation de romance avec elle. C'est vraiment, ça emprunte à la stratégie publicitaire qui est celle du Pulp Magazine, qui est une autre forme contemporaine de cette forme éditoriale du paperback, où on voit des femmes très sensuelles. Donc là, on s'adresse visiblement plutôt à un public masculin. C'est quand même des récits d'aventure, les récits de Conrad, aventures maritimes, aventures d'exploration.
Donc, cette technique de mettre une image qui n'a rien à voir avec le texte a fonctionné.
A certainement fonctionné, oui. Les paperbacks, c'était des gros succès commerciaux. avec une échelle de fabrication industrielle, et ça a très très bien marché.
Alors cette couverture, elle date de 1952, mais avant d'en arriver là, en fait avant d'arriver même à la couverture, on peut quand même parler de la reliure. Je vous propose d'écouter tout de suite cette archive.
La reliure doit être enlevée de rideau. Il faut qu'il y ait un essai de synthèse sincère entre l'œuvre et le décorateur. Et c'est à ce moment-là seulement que le relieur peut penser avoir fait œuvre créatrice. La première opération dans la confection d'une reliure consiste en la couture. Le volume étant passé en colle, nous coupons les cartons, nous posons les plats et les gardes, qui sont la décoration extérieure du volume.
La peau de mouton, de chèvre ou de veau sera avec l'or et l'argent la parure finale du livre.
Jacques Lancournet, un orfèvre du livre, s'était diffusé sur France 3 le 18 février 1977. Clémence Imbert, est-ce qu'on peut dire que la reliure, en fait, est l'ancêtre de la couverture telle qu'on la connaît aujourd'hui ?
Oui, absolument. La reliure est l'ancêtre de la couverture parce que c'est elle qui a formé le codex, donc cette forme de livre qui est encore la nôtre aujourd'hui, qui a été précédée dans l'histoire du livre par des livres qui étaient sous forme de rouleaux. Et puis, à partir du moment où on commence à concevoir le livre comme un ensemble de feuillets empilés, cousus ensemble, ben on va les protéger par la reliure. Et effectivement, la reliure, elle a longtemps été en fait un métier artisanal. Hein. C'était en fait, quand on allait chez un libraire jusqu'au 19e siècle, jusqu'au milieu du 19e siècle, et même encore aujourd'hui, hein, certains lecteurs font relier leurs livres, mais on achetait des ensembles de feuillets qui étaient sommairement cousus ensemble et qui constituaient pas vraiment un livre. On pouvait les lire comme ça, mais c'était quand même très fragile. Et donc, en fait, c'était le lecteur qui choisissait l'habit du livre. Il allait chez un relieur et selon ses moyens, il faisait réaliser une couverture, enfin une reliure, avec des matériaux qui pouvaient être plus ou moins nobles, avec des décors plus ou moins sophistiqués, plus ou moins coûteux. Souvent, la pratique était de relier plusieurs titres ensemble. Donc, on constituait des recueils de textes plus ou moins longs. Et puis, en fait, l'imprimeur libraire, donc l'ancêtre de l'éditeur, ne décidait absolument pas de l'aspect final du livre autrement que sous la forme de...
C'était vraiment l'acheteur, en fait.
C'était l'acheteur qui faisait l'habit de son livre, puis du coup il pouvait choisir des matériaux qui allaient s'assortir avec son intérieur, pourquoi pas.
Donc ça n'avait rien à voir en fait. Là on retrouve en fait cette idée que la couverture, dans ce cas-là, enfin pas la couverture, pardon, la reliure, ne pouvait ne rien avoir à faire avec le contenu du livre.
Exactement. Souvent c'est un décor qui est assez sommaire, assez neutre. C'est généralement, il y a un encadrement de filets, donc des petites lignes qui constituent un cadre sur la couverture, des petits fleurons d'angle qui, voilà. Le dos est un petit peu plus travaillé, notamment tâche très ardue pour les relieurs, il fallait quand même indiquer en quelques lettres au moins le sujet du livre, donc on reprenait souvent le titre, parfois le nom du propriétaire, ça arrive, mais voilà, c'est un métier qui subsiste aujourd'hui vraiment sur un marché de niche qui est celui de la reliure d'art ou de la reliure aussi, enfin il y a des relieurs pour les bibliothèques hein, qui effectuent encore ce genre de tâches, mais la reliure cuir qui a connu vraiment toutes ces heures de gloire sous l'Ancien Régime, elle a quasiment disparu. Elle a disparu parce que c'est de plus en plus l'éditeur qui a pris en charge de donner une forme au livre qui allait être vendu.
Donc l'éditeur, à ce moment-là, on est à peu près à quel moment en fait de l'histoire, le moment où l'éditeur décide qu'en fait le livre, c'est un objet qui va être entièrement conçu par lui, du choix de l'auteur, du texte, de la relecture, ouais, jusqu'au choix de la couverture.
C'est dans la première moitié du 19e siècle qu'on voit apparaître les figures de grands éditeurs parisiens. Et c'est des gens qui ont vraiment des visions d'entrepreneurs. Enfin, leur but est quand même de vendre du livre, des livres, de choisir des textes qui vont être faciles à commercialiser. Certains se spécialisent, par exemple Michel Lévy dans les textes de théâtre, d'autres dans le roman, comme Charpentier. C'est aussi le siècle où de la littérature qui a été au départ mise à disposition des lecteurs sous la forme du feuilleton peut être revendue par l'éditeur sous une forme de volume où on va retrouver tous les épisodes en chapitres. Et là, l'éditeur prend beaucoup plus en main et en charge la conception du livre en tant qu'objet, puisque le livre va se vendre sous deux formes. Une forme qui est la forme brochée, donc c'est simplement une couverture de papier avec réalisé chez l'imprimeur. Donc souvent, c'est la page de titre qu'on replace sur une feuille de papier un peu plus épais.
On redouble en fait
la
première page.
On redouble la page de titre avec quelques améliorations, mm-hmm. mais sommairement, c'est ça. Et puis, il y a une forme plus luxueuse qui est celle du cartonnage, qui est donc une forme du livre cartonné. Tous les éditeurs ne le font pas. C'est réservé à la littérature, vraiment au grand succès, et puis surtout à la littérature jeunesse, parce que les livres cartonnés sont des livres qu'on offre en cadeau. Donc, on en trouve dans les remises de prix de fin d'année, dans le système scolaire, et puis au moment des étrennes, quand on offre un cadeau à un jeune enfant, on lui offre souvent un livre cartonné, donc qui a une reliure, en fait, qui n'est pas en cuir, mais qui est en toile, et sur cette toile, il y a des motifs qui sont imprimés. C'est le cas des très, très bien connus des lecteurs français, je pense, des Jules Verne, dans la collection Hetzel. Ça, ce sont des livres qui existaient à la fois sous forme brochée, donc cette forme de papier, vraiment couverture papier dont je parlais, et sous une forme cartonnée. Et on choisissait, évidemment, ce n'était pas le même prix quand on avait un cadeau à faire ou si on achetait le livre pour soi. Jules Verne n'avait chez lui que les éditions brochées.
Parce qu'il était snob.
Il ne collectionnait pas les cartonnages, peut-être qu'il trouvait ça trop enfantin.
Mais c'est marrant parce que Jules Verne, d'ailleurs, ces couvertures dont vous parlez, ça fait peut-être partie des rares couvertures qu'on connaît peut-être dans leur jus. Elles ont été reprises, j'imagine. Oui. Elles ont vraiment en fait perduré.
Il y en a surtout eu une production monstre. Hein. C'est-à-dire
ça, vous
que...
dites plus de 1500, vous précisez.
Il y a d'immenses variantes dans les types de cartonnage de Jules Verne. Les collectionneurs savent très bien les différencier. Cartonnage à l'obus, cartonnage à une tête d'éléphant, à deux têtes d'éléphant, cartonnage à l'avant-taille. C'est les décors qui se trouvent sur le cartonnage. Parce qu'en fait, le principe de ces couvertures, c'est qu'un décor était réalisé avec un espace laissé pour le titre. Et ce décor pouvait être appliqué à toute la série des romans de Jules Verne. Donc, vous savez que dans les voyages extraordinaires de Jules Verne, il y a 20 milieux sous les mers, le tour du monde en 80 jours.
Voyage en ballon.
Voilà, voyage en ballon, l'île mystérieuse. Hein. Donc, c'est vraiment une collection de ce point de vue-là. Mmh. Et du coup, Hetzel avait en tête vraiment que les gens pouvaient souhaiter avoir sous la même forme, avec le même décor, tous les titres des Jules Verne. Donc, le décor était unique, on changeait le titre à chaque fois, mais on pouvait le mettre sur tous les titres de la série.
Donc, par exemple, j'ai sous les yeux la couverture d'un Jules Verne, c'est De la Terre à la Lune, donc c'est édité par Pierre-Jules Hetzel, dont vous venez de parler, ça date de 1872. Là, donc, c'est une couverture, donc c'est du cartonnage, c'est rouge, et en fait, que vous me dites, Clémence Imbert, c'est que, bon, alors je vais essayer de le décrire le mieux possible à l'antenne, mais c'est que donc là le titre était juste modifié en haut, c'est ça.
Alors celui du haut, c'est inscrit en haut, Voyage extraordinaire Jules Verne. Ça c'est le nom de la série.
Donc ça restait.
Et ce qui changeait, c'est ce qui est dans la partie du bas, c'est une espèce de petit encadré, mais qui est réalisé dans un style un peu d'arabesque avec des rubans qui s'enroulent et puis qui laisse un espace vide. Et dans cet espace vide, on pouvait selon les volumes imprimer le titre. Mais la plaque gravée elle-même qui servait de décor, elle était appliquée à tous les titres. Et c'est pour ça qu'on retrouve dessus tout ce qu'il y a dans les voyages extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez à la fois le ballon du Tour du Monde en 80 jours, le vaisseau du Capitaine Grant. Sous l'eau, il y a le Nautilus. On sait bien que tout ça ne se rencontre pas dans la même aventure de Jules Verne, mais que le décor convient pour tous les titres de la série. Donc c'est effectivement, ça ressemble à du cuir, mais ça n'est pas du cuir, c'est ce qu'on appelle de la percaline. Donc c'est une toile qui est lustrée, puis qui a un peu le grain du cuir. Et ce décor, il existe ici en rouge, mais en fait, on pouvait l'appliquer à de la percaline bleue, verte, violette. Enfin, il y en avait toute une série. La rouge était la plus populaire. Et donc rouge, or et noir sont restées les couleurs qu'on associe à Jules Verne encore aujourd'hui. Et j'ai vu que même des rééditions de poche de Jules Verne peuvent reprendre des éléments de ce vocabulaire graphique-là, donc des dorures, du noir, du rouge, des gravures. Sont encore utilisés pour les Jules Verne. Ça reste vraiment très, très associé.
Mais cette invention du cartonnage, Clémence Imbert, est-ce que c'est ça qui a créé la couverture telle qu'on la connaît et qui a créé aussi ce rôle qu'on connaît aujourd'hui aux maisons d'édition? Ou alors, est-ce que ce sont les maisons d'édition qui ont décidé à un moment donné de reprendre la main?
En fait, c'est effectivement ces cartonnages, ils permettent d'inscrire à la fois du texte et de l'image. Et en fait, la reliure, c'était pas possible de mettre de l'image. Enfin, c'était très délicat, ou c'était difficile de mettre du texte aussi. Donc, en fait, on avait des décors qui étaient très, très standardisés sur les reliures. Et le cartonnage, par ce changement de matériaux, rend possible l'association du texte et de l'image. Donc, effectivement, avec le cartonnage, la couverture de livre, la première de couverture devient une petite affiche, en fait. On peut tout à fait marketer le livre, en faire la promotion de manière manière beaucoup plus efficace qu'auparavant.
Donc c'est cette découverte-là qui a motivé en fait les maisons d'édition.
Oui, oui. Après, ça, les cartonnages, ils n'existent plus aujourd'hui. Hein. Donc ça a pas eu beaucoup. Enfin, ça a eu un succès qui a été un peu freiné par le coût que ça avait. Et puis, je crois qu'en France, on est peut-être que les lecteurs avaient plus à cœur de posséder beaucoup de livres que des beaux livres. Et donc, la couverture brochée, celle qui est simplement faite d'une feuille de papier un peu épais, celle-là, elle a perduré. Et puis, la plupart des... la forme du livre à couverture souple en France est restée la norme.
Alors, comment elle est arrivée, cette couverture souple? C'est juste une évolution de la couverture brochée?
Oui, c'est ça. C'est une évolution de la couverture, ce que j'appelle la couverture d'imprimeur, donc qui est cette couverture brochée, qui était réalisée dans les mêmes ateliers, que les mêmes imprimeries que celles qui imprimaient les pages de texte. Donc c'était une solution très économique, en fait, la couverture brochée, la couverture d'imprimeur. Et effectivement, elle évolue pour gagner en élégance et pour gagner en sobriété. Il y a un éditeur qui a joué un grand rôle dans cette acceptation de la couverture d'imprimeur comme peut-être une couverture définitive, c'est Gallimard, avec la collection qu'on appelle La Blanche, qui en fait ne porte pas de nom. Gérard Genette le rappelle dans Seuil, qui est un très beau livre sur les couvertures de livres. Il dit celle qu'on appelle La Blanche, en fait, elle n'a même pas de nom de collection.
Elle est tellement connue.
Elle est tellement connue, voilà. Le texte se présente seul, en fait. Il ne fait même pas partie d'une collection. Donc, et elle n'est pas blanche, elle est crème, hein, si on regarde bien les couleurs. Donc elle est crème, le titre y est en rouge, le nom de l'auteur en noir. Et cette couverture-là, elle apparaît dans les années 1910 chez Gallimard. Et dans la correspondance de Gallimard, on voit très bien les directeurs de la NRF là, décider de ces couvertures qui vont être des couvertures d'imprimeur améliorées, plus élégantes. Ils ont vraiment le souhait de faire une couverture qui sera belle. Et les parties prises typographiques, effectivement, vont aller de plus en plus vers une épuration, en fait, de la couverture d'imprimeur. La couverture d'imprimeur, elle est très chargée, souvent en bas de page, il y a le nom de l'éditeur, mais aussi son adresse.
C'est pas chargé en illustration, c'est chargé en information.
Non, chargé en information. Et il y a beaucoup de textes. Et en fait, Gallimard va aller vers une simplification de plus en plus poussée des informations qu'on trouve sur une couverture.
Donc c'est au début du XXe siècle qu'apparaît la couverture souple, mais aussi ces tendances très distinctes entre les pays anglo-saxons et la France, entre des couvertures fades, pour le dire un peu méchamment, j'ai dit béjasse tout à l'heure, c'était pas plus gentil, et des couvertures plus bariolées dans les pays anglo-saxons. C'est là que ça se joue.
Oui, à ce moment-là, oui, on peut dire que la France va se choisir... ces couvertures d'éditeurs très, très sobres. En tout cas, en 1918, le deuxième volume de « À la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs » remporte le prix Goncourt. Et ça va donner à Gallimard, c'est son premier succès hein, comme maison d'édition, une sorte d'importance qui va lui donner de l'avance ensuite. Par le catalogue, évidemment, on peut pas nier que ses éditeurs aussi ont su réunir de bons auteurs. Alors Proust, il n'avait pas été édité tout de suite chez Gallimard. Ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il avait été refusé, son manuscrit avait été refusé chez Gallimard, le manuscrit du côté de chez Swann, et il avait dû publier à compte d'auteur chez Grasset. Et puis pour le deuxième titre de sa série, il avait pu être édité chez Gallimard. C'est là que le livre remportera le prix Goncourt. Et cette couverture beige de la première édition de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, quand on la voit aujourd'hui, elle, évidemment qu'elle ressemble déjà à la blanche aujourd'hui, notamment donc par l'emploi des encres rouges et noires. Mais elle a aussi beaucoup changé. Le caractère typographique a changé. C'est un caractère qui est beaucoup plus frêle que celui qu'on trouve aujourd'hui, qui est le caractère dido. Mais à l'époque, c'était un caractère anglais qui s'appelle Cheltenham. La composition est centrée. Le texte est justifié. Donc, c'est-à-dire qu'il est aligné à droite et à gauche, ce qui fait que l'interlettrage varie en fait à chaque ligne. Donc, des jeunes filles a été très 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 serré, mais en fleurs prend plus de place. On voit là des règles de composition qui sont sur la page de titre, qui sont par exemple, on doit garder les unités syntaxiques sur les mêmes lignes. Donc, on coupe à l'ombre. À la ligne des jeunes filles, à la ligne en fleurs, et non pas à l'ombre des, à la ligne jeunes filles. Voilà. Ça, c'est une règle de typographie qui valait pour la page de titre et qu'on retrouve du coup sur les couvertures, sur la couverture brochée.
Donc, ces couvertures-là, parce que j'ai pas oublié ce que vous avez dit en début d'émission, Clémence Imbert, ces couvertures-là, blanches, sobres, crème, beige, en fait, vous avez dit, elles sont beaucoup plus subtiles qu'on ne le pense. Là, par exemple, on voit bien quand on prend un exemplaire de 1918, traduite, donc ce texte de Marcel Proust, on voit bien que ça ressemble, il y a une continuité avec ce qu'on connaît aujourd'hui de cette collection-là. Mais par exemple, cette couverture-là me semble beaucoup plus chargée. C'est-à-dire que même, paradoxalement, on est allé encore vers plus d'épuration, parce que là, sur la couverture, en bas, on voit l'adresse des éditions de la Nouvelle Revue française, qu'on trouve plus maintenant. Ça prend presque les deux tiers de la couverture, alors que maintenant, c'est juste nom de l'auteur, un titre, un grand blanc... Et en bas, le nom de l'éditeur.
Oui, mais tout à fait. Après, ces couvertures, effectivement, elles ont été vers de plus en plus de simplifications. Mais ces dernières années, si vous allez en librairie, il est très rare que vous voyez des couvertures blanches telles quelles. En fait, elles sont de plus en plus souvent habillées par un bandeau sur lequel il peut y avoir de l'image, bien souvent, sur lequel il y a la mention du prix littéraire à minima quand il y a eu un prix littéraire, mais ou le redoublement du nom de l'auteur, mais en gros caractères. Et de plus en plus, des bandeaux où il y a de l'image, où il y a un détail d'œuvre d'art, une photo, un portrait de l'auteur. En fait, c'est les couvertures... le bandeau, on peut l'enlever, on peut s'en servir comme marque-page, on peut finir par le jeter, et on se retrouve dans sa bibliothèque avec un livre qui va apporter cette charte graphique de Gallimard, mais en librairie, en fait, cette couverture ne se suffit plus tellement à elle-même. De nos jours, les éditeurs...
Il y a toujours des apparats.
Voilà, il y a des apparats, et il y a nécessité de l'habiller, de la rehausser un petit peu, voilà. Mais dans les années 10, 20, et jusqu'aux années 2000, hein, les livres étaient encore présentés sous cette forme très sobre, les livres de Gallimard.
Moi, j'ai vu des couvertures d'éditeurs, des couvertures littéraires d'éditeurs se créer l'an passé, notamment chez Kahneman Levy et à Table Ronde. Mais est-ce qu'elles dureront plus de 2 ans ou plus de 10 ans? Je n'en suis pas certain. Enfin, il faut attendre. C'est quand j'ai créé la couverture de Folio, j'étais pas sûr qu'elle franchisse le temps. Or, je l'ai quand même créée il y a maintenant 17 ans. Mais bon, la couverture de Gallimard, qui était créée en 1911, je l'ai un peu rafraîchie et je lui ai fait subir des modifications qui ne sont pas sensibles, mais qui sont néanmoins réelles, parce que beaucoup de gens m'ont souvent dit « Ah, si on reprenait la couverture du début !» Mais non, ce n'est pas possible, parce que la concurrence dans les vitrines de libraires ferait qu'elle ne se verrait pas. Mais si la couverture est trop racoleuse, on va arriver, c'est ce qui se produit souvent d'ailleurs, une espèce de surenchère, et à la fin, on ne verra plus rien. J'ai fait récemment une expérience intéressante, précisément chez mon éditeur, à l'Imprimerie Nationale. Et j'ai fait une couverture qui est complètement à contre-courant de tout ce qui se fait en ce moment. C'est-à-dire que le papier est un papier à grains de teinte ivoire. Les caractères utilisés sont des caractères en tout petit corps, des caractères qui datent de la fin du XVIIe siècle, tirés en noir et rouge. Et finalement, les libraires accueillent très bien cette couverture parce qu'elle fait un trou dans la vitrine. Fallait y penser. Don't judge a book by its cover if you don't even read. There's no shame in saying that you're not up to speed. No, you're just scared. Yeah, you're just scared. Don't judge a book by its cover if you don't even read. There's no shame in saying that you're not up to speed. No, you're just scared. Yeah, you're just scared. I got a real bad habit. I think I know everything before it happens. Times I was right didn't help, and I only made a know-it-all know without asking. To the point, if I didn't know the answer, I would make it up like the meaning of a canvas. I never should have went a lack with a guess, and I go off on a rant if you say I ain't correct. But that got real old real fast. I think I had a fear about being on the outside or the end while everybody out. I just want to be the first yelling out, it's about time. I don't have a clue what I'm doing most times when I wake up in the morning. Being fake in the mix, nah, I just rather be real, not knowing. Don't judge a book by its cover if you don't even read. There's no shame in saying that. I was out in that event one time, trying to meet people and such, and watch stuff where people think you're cool cause your crew ain't skipping the line. Once I got inside, I was chilling out, trying to feel the vibe, trying to fill it out, filling out a place with a look up on my face like I wasn't really feeling it much. And here she come, looking like she run a blog about here. Let me guess, you don't need me, do yoga every week, and you only hang out here. I digress, I was far from right, she was far from them. We were so polite, there was no pretend, could've lost the gym. Next chapter, begin. Don't judge a book by its cover if you don't. There's no shame in saying that you're not up to speed. No, you're just scared. Yeah, you're just scared. Don't judge a book by its cover if you don't even read. There's no shame in saying that you're not up to speed. No, you're just scared.
C'était la voix de Robert Massin chez Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter en 1989. Clémence Imbert, est-ce que vous pouvez nous présenter Robert Massin, qui est quand même un grand homme en fait dans le domaine de l'édition et notamment concernant ce sujet des couvertures de livres.
Oui, tout à fait. Alors Robert Massin, c'est un graphiste, donc vraiment c'est quelqu'un qui a travaillé aussi bien le texte et l'image, qui a été formé en fait de manière relativement autodidacte et qui a travaillé comme directeur artistique chez Gallimard pour une grande partie de sa carrière. Il a réalisé là des couvertures, des chartes graphiques de collection. Là, il parle de celle de Folio qui a été très influente, qui est encore, on va dire, maintenue hein, dans un état assez proche de ce qu'il avait imaginé. Et puis, il a réalisé aussi des livres qui sont très, très connus pour les graphistes et les amateurs du livre, qui sont des livres presque d'artistes ou d'expérimentation typographique avec des jeux sur le théâtre, sur la poésie. Il a travaillé avec Ionesco, il a mis en page une cantatrice chauve illustrée de photographes qui est tout à fait savoureuse. Voilà, c'est vraiment un homme très important pour l'histoire de la couverture de livres.
Donc avec un autre nom en fait, qui est celui de Pierre Faucheux, dont vous parlez aussi dans votre livre, Clémence Imbert. Qui est-il, Pierre Faucheux, et en quoi en fait Massin et Faucheux ont peut-être fait subir un tournant en fait à l'édition et notamment aux couvertures maintenant qu'on a dans les mains?
Ouais. Alors ils ont un profil en fait, leurs trajectoires se sont un peu croisées. Ils ont été actifs à la même époque, c'est-à-dire en gros entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 70-80. Pierre Faucheux, on l'a appelait l'homme aux 100 000 couvertures. Il avait un atelier extrêmement prolifique, avec beaucoup d'assistants aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui travaillait seul, Massin non plus d'ailleurs. Et Pierre Faucheux, et comme Massin, avait commencé leur carrière dans un mouvement de l'édition qui a été celui des clubs du livre. Donc les livres de club sont des livres qui sont édités juste après la Seconde Guerre mondiale et qui sont des livres cartonnés justement, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. et dans lesquels Massin comme Faucheux, donc ils ne travaillaient pas pour la même enseigne, mais réinventent en fait complètement la manière de faire de l'illustration, la manière d'utiliser des documents d'archives comme illustration dans un livre. C'est des livres qui sont des livres de collection vraiment, qui ont valeur, qui ont pour vocation d'être collectionnés, d'être conservés par les gens. Et donc voilà, ils ont des profils assez proches de ce point de vue-là. Faucheux, il va travailler, enfin, l'une de ses enseignes principales d'exercice, c'est le livre de poche. La collection Le Livre de Poche qui est portée par un conglomérat d'éditeurs dont Hachette est le principal actionnaire. Donc Le Livre de Poche en France est créé en 1953 et les couvertures du Livre de Poche vont d'abord beaucoup ressembler à des couvertures de paperbacks américaines, un petit peu simplifiées mais illustrées,
mais
dessinées
en fait, parce que les paperbacks
c'est la première marque de paperback qui s'appelle Pocket Books, Le Livre de Poche, elle date de 1939, c'est une invention américaine mais qui s'est transformée en France juste après la guerre, enfin dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Et le parti pris est vraiment le même, c'est de faire des rééditions, donc de titres à succès. Hein. Le catalogue est composé vraiment des grands classiques de la littérature de l'époque, des auteurs vivants, des auteurs classiques, tout ça mélangé. Et donc ces couvertures, les premières couvertures du livre de poche sont dessinées, comme je le disais. Et puis Pierre Faucheux va commencer à travailler pour la maison en 53, et lui il va vraiment transformer la charte graphique, enfin apporter à ce livre de poche des ingrédients qui étaient très modernes, qui étaient la photographie, qui étaient l'emploi de jeux sur les lettres, le titrage, avec des polices de caractère un peu anciennes, décoratives, qui peuvent être apposées sur de la photographie en couleur. Vraiment, il va beaucoup transformer l'image qu'on peut se faire d'une couverture de livre en y apportant des choses très très originales, très très personnelles aussi pour l'époque.
Donc par exemple, quand on voit aujourd'hui des photos sur des couvertures de livres, c'est Pierre Faucheux.
Oui, alors si la photo a été travaillée, si elle fait l'objet par exemple d'un petit jeu de photomontage, d'un collage qui est évident, si elle est associée avec des couleurs ou colorisée, si elle est assortie à des documents d'archives, c'est possible que ce soit un Pierre Faucheux. Il est facile, il suffit de retourner le livre, de regarder en tout petit caractère, il est souvent écrit Pierre Faucheux, Atelier Pierre Faucheux. Voilà, c'est, vraiment, vous allez chez n'importe quel bouquiniste, brocanteur aujourd'hui.
Il y a du Pierre Faucheux partout.
Et je pense qu'on a tous un Pierre Faucheux dans sa bibliothèque.
Mais alors, vous nous avez parlé tout à l'heure, Clémence Imbert de À la recherche du temps perdu de Proust, on peut là aussi en fait évoquer cette couverture faite par Pierre Faucheux en 62. Bon là, sous les yeux, j'ai la couverture du temps retrouvé. Et là, on retrouve exactement ce photomontage dont vous parlez avec des photos du manuscrit de Proust.
Oui, absolument. En fait, cette couverture a été réalisée. Donc, c'est une photographie qui est appliquée, qui est imprimée pleine page et qui se poursuit d'ailleurs au dos du livre. Pierre Faucheux, il utilisait souvent la première et la quatrième de couverture d'un seul tenant.
C'est là où on voit que la couverture donc n'est pas juste ce rectangle qu'on voit, mais qu'on peut déplier.
Quand on tient le livre ouvert, c'est une autre image qui apparaît. Et effectivement, Pierre Faucheux avait été photographié à la Bibliothèque nationale de France les manuscrits de Proust. Pierre Faucheux, il a beaucoup utilisé dans les choses qu'il utilisait souvent pour leurs propriétés graphiques. Il utilisait souvent l'écriture manuscrite des écrivains. Donc c'est pas rare qu'il y ait des couvertures de lui où il y ait des lettres qui sont très très agrandies pour devenir quasiment abstraites ou au contraire qui sont traitées comme un décor en fait, comme un motif. Et c'est le cas là, il est allé donc photographier ses manuscrits, donc on voit un petit peu superposés, feuilletés, puis on sait que les manuscrits de Proust ont une épaisseur et puis des possibilités d'extension, de pliage, voilà. Et puis il a posé dessus une photo de Marcel Proust adulte, mais la collection est ainsi faite que si on lit du côté de chez Swann, qui est le premier tome, ça va être une photo de Proust enfant, puis adolescent, puis voilà, la photo change selon les titres. Et donc toute la série de À la recherche du temps perdu existe voilà dans cette édition du livre de poche, édité tout à la même au même moment, avec des manuscrits de Proust en fond décoratif, et puis une photo de l'auteur. Et ça constitue une série. J'ai une amie qui possède toute la série de À la recherche du temps perdu dans cette édition là très particulière, qui est celle de Pierre Faucheux.
Et qu'est-ce qui prime à cette époque, Clémence Imbert, dans la tête, par exemple, d'un Pierre Faucheux ou d'un Robert Massin? Est-ce que c'est vraiment presque de faire une œuvre d'artiste, de créer un bel objet? Quand vous dites que vous avez, par exemple, une amie qui possède cette collection en entier, c'est que ça devient un objet de représentation de soi, mais aussi, en fait, un objet de décoration. Est-ce que Pierre Faucheux, il avait ça en tête, ou est-ce que c'était vraiment aussi populariser une certaine esthétique, singulariser une maison d'édition?
Je pense que c'est, je sais pas si c'est des gens qui auraient prétendu faire œuvre. C'est aujourd'hui comme ça qu'on le perçoit de loin, parce que c'est vrai que leur liberté surprend. Enfin, on a l'impression qu'ils avaient peu de contraintes ou que les éditeurs leur faisaient énormément confiance. Et c'est le cas de ce qu'ils racontent. Massin, il avait vraiment, il discutait directement avec Gaston Gallimard. Il a proposé plein de choses très audacieuses qui avait été accepté parce que il avait des rapports privilégiés avec vraiment la tête de la maison d'édition. Il y a à l'époque pas encore de services commerciaux, de gens qui prescrivent aux graphistes.
Il y a plus de liberté d'une certaine manière.
Ouais, ils avaient, je pense, qu'ils jouissaient d'une liberté que les graphistes n'ont plus aujourd'hui. Plus autant. Enfin, ça dépend des contextes, bien sûr, mais oui, je pense que oui, il y avait
sans faire œuvre,
parce que les titres du livre de poche, ils sont quand même. Il y a pas de charte graphique, par exemple. Il y a pas de disposition qui serait la même pour toute la maison. C'est vraiment chaque livre était travaillé individuellement graphiquement. Donc oui, mais c'est sûr, il y avait un projet de donner à ce livre un aspect très artistique. Et ça, c'est permis parce que c'est du livre de poche, parce que c'est pas très cher, parce que c'est des objets, du coup, qui peuvent beaucoup plus imprimer les effets de mode, et que si le livre ne plaît pas, c'est pas grave, on le retirera sous une autre couverture. C'est des rééditions, les livres de poche. Donc, ils ont déjà connu une forme légitime qui sera conservée pour la postérité. Le livre de poche, c'est le livre qu'on va emmener en vacances, qu'on va corner, peut-être oublier dans un train. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ambition artistique et littéraire. On peut se permettre beaucoup de choses.
Mais c'est intéressant sur le livre de poche, le fait que vous disiez qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup d'ambition artistique, littéraire. Donc du coup, ce soit plus facile et peut-être plus original aussi. C'est un petit peu paradoxal, mais finalement, tous ces livres dont nous parlons, les paperbacks, les livres de poche et tout, qui étaient une littérature qui pouvait être dévaluée, ou par exemple les romans de gare, les librairies de gare, là où on a eu des couvertures un peu sensationnelles, finalement, c'est là où il y a eu le plus d'originalité, de parti pris, de choses marquantes.
Oui, tout à fait. C'est un espace, pour l'histoire de la couverture de livres, c'est sur le livre de poche qu'on a vu les choses les plus inventives se produire, finalement. Parce qu'il y a peu d'enjeux. Et puis, c'est effectivement, c'est comme vous le dites, c'est des formes éditoriales qu'on associe facilement à la littérature de gare, à la littérature populaire. c'est des secteurs de l'édition qui sont pas beaucoup regardés par les métiers, les gens du livre. Mais c'est pas allé sans problème. Et le livre de poche, quand il est apparu en France, a suscité beaucoup, beaucoup de débats parce qu'on y a vu donc ces couvertures très colorées, vernies, présentées sur des petits dispositifs des petits tourniquets, des cartes postales,
oui, hein,
voilà,
oui.
Où c'était des caisses à savon, voilà. Et on avait l'impression que la littérature se prostituait, que c'était, et il y a vraiment des débats enflammés. Il y a des auteurs comme Julien Gracq qui refuseront toute leur vie d'être édités dans les éditions de poche. Il y a un numéro des Temps modernes, la revue de Sartre, où vraiment dans les années 60, les gens continuent de s'étriper sur oui ou non, est-ce une bonne chose que la littérature existe sous cette forme très dévaluée, à petit prix, sous des couvertures qui racolent, qui ressemblent à celles de Paris Match, qui ressemblent à celles des boîtes de lessive. C'est des exemples qui sont dans la revue.
Où en fait, les couvres deviennent presque des publicités.
Les couvertures sont des publicités et ça ne va pas du tout de soi. En tout cas, dans le milieu culturel français, l'arrivée du livre de poche a été un vrai séisme. Après, on s'est rendu compte que les gens adoraient les poches, non seulement les achetaient, mais les gardaient, que des gens constituaient des bibliothèques chez eux avec ces titres-là, qu'ils achetaient des bons classiques, que ça a permis aussi de faire lire beaucoup le public scolaire. Hein, ça a été très utilisé par les étudiants. Il y a plein de collections de poches qui s'adressaient vraiment, en sciences humaines, qui s'adressaient au public des étudiants, qui pouvaient se constituer comme ça, pour pas très cher, une super bibliothèque avec tous les grands classiques, et de la littérature et de la philosophie ou de la pensée. Donc c'est ça a été un peu une surprise en fait de voir l'attachement des consommateurs, mais c'est maladroit, mais des lecteurs et des lectrices à cette formule là. Ouais.
Quand vous circulez entre les rayons de la librairie ici, qu'est-ce qui préside au choix du livre que vous sortez du rayon? Est-ce sa couverture? Est-ce les pages que vous feuilletez?
Jacques Personnaz, 12 ans. Non, moi, c'est surtout pour la couverture. Rien que voir la couverture et toutes les couleurs, ça me plaît et je l'ouvre. Tandis que quand je regarde une aventure comme la collection Rouge et Or, j'aime bien ça. Mais quand je vois quelque chose d'illustré, je vais dessus avant.
Mais tu n'es pas quelquefois déçu, tu n'es pas quelquefois trompé par une très belle couverture et que le contenu ne répond pas à la couverture?
Bien, je ne sais pas exactement parce que j'ai beaucoup de livres que quand je regarde la couverture, eh bien, ils me plaisent toujours, même dedans. Et je crois que c'est assez rare quand un livre qui a une couverture illustrée, quoi, me plaît pas.
À la découverte des jeunes lecteurs, c'était en 1962. On méprise souvent ceux qui achètent, les lecteurs qui achètent des livres uniquement en fonction de leur couverture. Mais il faut quand même dire quelque chose, Clément Saint-Bert. À partir du moment où la couverture naît au 19e siècle, le nombre de lecteurs triple. En France, en tout cas. Donc, il y a vraiment une concomitance entre l'apparition de la couverture, l'apparition des formats poche avec des couvertures souples et le nombre de lecteurs en France.
Oui, alors je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait, mais je pense que les progrès, effectivement, de l'alphabétisation ont rendu possible la commercialisation par les éditeurs d'un nombre de plus en plus nombreux de titres par an et puis de formes éditoriales aussi. Donc on va vendre de la vulgarisation scientifique, on va vendre de la littérature de fiction, du roman policier, beaucoup. Et en fait, c'est parce qu'il y a de plus en plus de lecteurs qu'il y a de plus en plus de livres et de plus en plus de possibilités d'expression sur les couvertures. C'est plutôt dans cet ordre-là que ça s'est passé. Après, cette archive est vraiment amusante parce que elle pose la question de la maturité du jugement sur un livre et de la manière dont on peut être trompé par une image qui va être très séduisante. Ça, c'est un reproche qui va être beaucoup fait à la littérature populaire, qu'on associe à la littérature enfantine. C'est que l'image est une séduction facile, que se tourner vers un livre qui est illustré, c'est un signe de paresse. Cet aspect-là, il perdure encore aujourd'hui. Il y a clairement une sorte d'élitisme qui interdit l'usage de l'illustration trop facile, trop littérale sur la littérature.
Donc, par exemple, pour les livres universitaires, on refuse l'idée d'image, sauf peut-être dans des versions poche. Je pense notamment au Garnier Flammarion, par exemple, où là, il y a des illustrations qui changent régulièrement pour des textes classiques. Oui. Mais là, par exemple, j'ai sous les yeux, je vais en parler parce que ça, c'est mon petit joker, une couverture des Puffs. C'est la collection Premier Cycle. Voilà, moi, j'ai sous les yeux celle de Philosophie grecque sous la direction de Monique Cantos-Perber. C'est quand même une couverture très culottée parce que c'est donc les quatre contributeurs du livre qui sont pris en photo. Et ça, c'est quand même une couverture qui est à la fois osée. On ne peut pas dire non plus que ce soit de l'image, illustration, fantasy. C'est même assez austère. Bon, je pense que le mieux, c'est de vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce genre de couverture, Clément Saint-Bert.
Moi, je la vois avec un œil de graphiste, c'est-à-dire que je vois surtout qu'elle est à fond blanc, ce qui a été une grande mode de l'édition à partir des années 70. Donc, pour se démarquer justement des paperbacks qui avaient des couvertures toutes en couleurs, vraiment pleine page, le parti pris de Folio par Massin, ça a été de mettre l'image sur un fond blanc. Donc ça, je vois ça. Et puis, je vois effectivement, c'est quatre auteurs, parce que ce sont souvent des ouvrages collectifs, les ouvrages universitaires, dont on peut dire que ce ne sont pas des mannequins qui sont habillés avec, pour nous aujourd'hui, c'est un petit catalogue de la mode des années 90.
Ça date de 1998
tout de même.
Mais il y a un côté académicien aussi.
Oui, c'est ça. Il y a du sérieux, mais pas seulement. Il y a aussi un petit l'air d'une petite farce, quoi. C'est vrai que c'est étonnant de poser pour une couverture quand on est universitaire.
Maintenant, des années plus tard, moi, je revois cette couverture-là, je me dis, mais en fait, c'était génial comme coup. C'est-à-dire, ce qui paraissait déjà daté en 98, en 2023, devient génial parce que personne d'autre ne l'a fait et que finalement, on voit enfin des auteurs sur une couverture, ceux qui étaient effacés jusque-là des couvertures.
Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que, en fait, le portrait d'auteur, c'est quand même une grande veine de l'illustration de couverture. Ça date du frontispice, où on mettait souvent un portrait de l'auteur dans un médaillon en face de la page de titre. Et ça a perduré. Faucheux en a réalisé des très belles. On parlait tout à l'heure celle de Proust, mais il y a eu des jeux photographiques sur les portraits, des interprétations gravées, dessinées de certains portraits d'auteurs. C'est une grande tradition, en fait. Mais là, c'est la forme que ça prend, qui est, je pense, plutôt liée à la pose, à l'aspect un peu de photographie couleur qui renvoie à la photographie de mode, sauf que ce que nous avons sous les yeux, c'est clairement pas une photo de mode. Enfin, très involontairement, disons.
Oui, surtout qu'en plus, c'est quand même sur la philosophie grecque. Donc, en fait, on veut du contenu. Donc,
oui,
c'est très paradoxal.
Oui, il aurait été plus attendu de trouver là un vase grec, comme ça s'est fait beaucoup.
Je crois qu'on a encore beaucoup. Une statue grecque, oui, effectivement.
Voilà.
Merci beaucoup, Clément Saint-Bert. On n'aura pas eu le temps de parler beaucoup des couvertures actuelles, mais je cite quand même la maison d'édition Monsieur Toussaint, l'ouverture, qui fait des très, très, très belles couvertures. Et il y en a d'autres, L'Échappée, le Tripode. Et on n'a pas eu parlé non plus de ces couvertures qui misent quand même sur le côté Instagrammable. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. De vous, on peut lire Clément Saint-Bert, les couvertures de livres, une histoire graphique aux éditions Imprimerie Nationale.
Merci.
Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Nicolas Bonnet. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.